Radio Campus Lille, 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Non mais dès que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est la
crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
C'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallais le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus pas rouges,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, je vais tomber en panne de poste. J'ai dit tant que je prenais pas.
Aujourd'hui, mercredi 2 juillet 2025, c'est la Saint Binational. Saint Binational est le saint patron des ennemis intérieurs qui attendent l'occasion de montrer leur vrai visage. Des infiltrés pleins de duplicité, prêts à nous sauter dessus. Des cinquièmes colonnes qui rongent le pays de l'intérieur. Des traîtres qui avancent masqués. Des sournois qui savent dissimuler leur félonnerie derrière un beau sourire. Des renégats qui fomentent dans l'ombre la chute de leurs bienfaiteurs, des Judas prêts à se vendre pour 30 dinars, des scélérats dans l'âme, et d'ailleurs même, quelle âme, des hypocrites aux paroles fleuries, des parjures, des doubles faces, des faux frères, des loups déguisés en agneaux, des renards dans la bergerie, des intrigants, des manipulateurs de foule, des spécialistes de l'apparence, des imposteurs, des dissimulateurs, des tricheurs, des conspirateurs, des spécialistes de l'adaptation, des fourbes au visage d'ange et à la geste vertueuse, des tartuffes aux flatteries douces et parfumées à la trahison, des artisans patients de la désagrégation du pays, des coups de couteau dans le dos, des espions aux dents bien blanches et bien longues, des corrupteurs, des malfaisants aux projets funestes, des nuisibles, des faussaires, des saboteurs bien trop visibles, des profiteurs, des parasites qui prolifèrent et se reproduisent comme des rats, tout ça pour toucher les allocs, des supporters du PSG dont les parents se prélassent au bled dans leur villa payée par nos impôts, des terroristes en puissance, des voleurs sans valeur et des antisémites. Bref, Saint Binational et le saint patron des Français de papier et des Arabes de merde. Mais si saint binational et franco-israélien, par contre, et qu'il commet un génocide, ça, ça va, ça passe, ça se canonise. Aujourd'hui, mercredi 2 juillet, le soleil s'est levé, la marée de tantôt te l'a tout enjupé. Il va se coucher, un bateau dans les dents, des étoiles dans les yeux. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, campusil.com et le DAB+. C'est donc bien l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus comme tous les mercredis à cette heure-ci ou à peu près. Ce soir, vous pourrez entendre Peter Mertens, le secrétaire général du Parti du Travail de Belgique, le PTB, qu'on aime bien ici. Peter Mertens dans son émission mensuelle Tout bascule. Mais juste avant ça, deux chroniques de notre camarade Saïd Bouamama sur l'Iran. Et sa chronique Le Monde vu d'en bas, diffusée avec son aimable autorisation, bien sûr. Et c'est l'heure de le mettre, quoi.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique, comme celle qui suivra dans quelques jours, est consacré au bombardement criminel de 3 sites nucléaires iraniens, à leurs conséquences possibles et aux leçons que l'on peut d'ores et déjà en tirer. Dans la nuit de samedi à dimanche, des bombardements états-uniens larguaient 14 bombes dites GBU-57, portant chacune une charge de 13 600 kg, sur les 3 principaux sites nucléaires iraniens, les sites de Natanz, Isfahan et Fordo. L'opération baptisée « Marteau de minuit » mobilisait 125 appareils, dont 7 bombardiers furtifs B-2, a expliqué quelques heures plus tard le chef d'état-major des armées des États-Unis, le général Dan Kane, en précisant qu'il s'agit, je cite, « de la première utilisation opérationnelle de cette arme ». Tirant à son tour le bilan de l'opération, Donald Trump profère de nouvelles menaces. Je cite, « les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran doit maintenant faire la paix. Rappelez-vous qu'il reste de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile de toutes. Mais si la paix ne vient pas rapidement, nous viserons ces autres cibles avec précision, rapidité et compétence. » Fin de citation. Ce qui est donc proposé à l'Iran, c'est le choix entre la capitulation ou de nouvelles attaques meurtrières. La réaction iranienne ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, déclare ainsi, je cite, « les événements sont scandaleux et auront des conséquences éternelles. L'Iran se défendra par tous les moyens nécessaires. L'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple. Il n'y a pas de ligne rouge qu'il n'ait pas franchie. Et la dernière, la plus périlleuse, s'est produite hier soir. Ils ont franchi une ligne rouge majeure en attaquant des installations nucléaires. » Fin de citation. Joignant le geste à la parole, les autorités iraniennes déclenchent immédiatement une nouvelle salve de 30 missiles sur le territoire israélien en utilisant pour la première fois des missiles balistiques à tête multiple. Un jour après, dans la nuit du lundi à mardi, plusieurs nouvelles salves de missiles touchent de nouveau de nombreux sites sur plusieurs points du territoire israélien. Dans la même nuit, enfin, deux bases états-uniennes, l'une au Qatar et l'autre en Irak, sont à leur tour touchées par les tirs iraniens. Dans la nuit, Donald Trump annonce un cessez-le-feu devant entrer en vigueur pour 4 heures GMT, qui est dans la foulée accepté par l'État sioniste. Le fiasco est complet pour Tel Aviv comme pour Washington. Il s'agit bien d'un fiasco sur toute la ligne. Le programme nucléaire iranien n'est pas interrompu, les installations nucléaires visées ont subi des dégâts conséquents mais restent en fonctionnement. Le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne et en particulier de son fameux dôme de fer est enterré. La cohésion du peuple iranien est plus forte que jamais. Le discours de l'impuissance face aux géants états-uniens est démenti. La démonstration que la résistance est possible et efficace est faite, etc. Les États-Unis se retrouvent aujourd'hui dans une impasse stratégique porteuse de tous les dangers. L'obligation de réaliser le recul tactique qu'est le cessez-le-feu ne leur laisse que 2 possibilités. Soit reconnaître et accepter leur défaite, soit la course en avant meurtrière, en prétextant par exemple dans quelques jours que l'Iran a violé le cessez-le-feu. Il est trop tôt pour privilégier l'une ou l'autre de ces hypothèses, car elles dépendent de nombreux facteurs, et en particulier du rapport des forces au sein des États-Unis eux-mêmes. Au-delà des discours et fanfaronnades de Trump, les États-Unis sont confrontés cette fois-ci à une réalité nouvelle en termes de capacité de réaction et de résistance. Cela a été connu et prévisible. Pourquoi, malgré ce contexte, ont-ils quand même décidé cette agression militaire? 3 jours après avoir annoncé un ultimatum de 2 semaines, avant de mettre en œuvre la menace d'intervention directe états-unienne, Donald Trump décide de se contredire et bombarde l'Iran. Cette accélération est d'autant plus surprenante que Donald Trump est confronté au sein même des États-Unis à une opposition grandissante à une implication dans une guerre directe, y compris dans son propre camp. Rappelons en effet que Donald Trump a fait toute sa campagne électorale en promouvant une stratégie de paix et de désengagement militaire. Au cœur de cette campagne figurait le slogan « L'Amérique d'abord » que le candidat Trump a de nombreuses fois traduit comme la promesse de mettre fin aux aventures militaires étrangères de ses prédécesseurs et aux ingérences coûteuses dans les affaires intérieures des autres nations pour se concentrer sur une stratégie nationale de réindustrialisation. Sans surprise, la déception et le sentiment d'avoir été floué est au rendez-vous. C'est en tout cas ce que montre un sondage de la semaine dernière portant explicitement sur l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Réalisé par le journal The Economist, par l'Institut YouGov, entre le 13 et le 16 juin, les résultats indiquent une nette opposition à la guerre. Le journal Le Figaro, pourtant rarement hostile à Trump, résume comme suit les résultats de ce sondage. Je cite « Si 50% des Américains considèrent l'Iran comme un ennemi des États-Unis, seulement 16% d'entre eux estiment que l'armée devrait s'impliquer dans le conflit. Ils sont une large majorité, 60%, à s'y opposer, quand les autres, 24%, hésitent. Cette majorité semble d'ailleurs transpartisane, 65% des démocrates, 61% des indépendants et 53% des républicains s'opposent à une intervention militaire. Fin de citation. Le génocide du peuple palestinien a par ailleurs suscité un large mouvement d'indignation, en particulier dans les universités. L'agression militaire contre l'Iran, alors que Tel Aviv bombarde l'Iran depuis le 13 juin, apparaît logiquement comme une complicité de génocide aux yeux de nombreux citoyens états-uniens. Malgré ce contexte, Donald Trump a quand même pris le risque politique de décider une implication directe de son pays dans la guerre contre l'Iran. S'il est encore trop tôt pour caractériser tous les facteurs qui ont joué dans cette prise de décision, plusieurs d'entre eux ressortent cependant de manière indéniable. Le premier est, selon nous, l'ampleur et l'efficacité de la riposte militaire iranienne. L'invincibilité du fameux dôme de fer de la défense israélienne a une nouvelle fois été démentie. Des cibles militaires et politiques importantes ont été touchées et détruites par les missiles iraniens. La diversité des cibles de l'Iran portait un message clair. Elle indiquait qu'il n'y avait aucun lieu en Israël qui pouvait être considéré comme entièrement protégé. Le second facteur est la cohésion du peuple iranien qui, malgré l'ampleur des frappes israéliennes, n'a pas cédé à la panique. Comme nous l'avons mentionné dans notre précédente chronique, une des attentes des frappes meurtrières sur l'Iran était en effet de susciter la panique de la population dans l'espoir qu'elle se retourne contre le gouvernement du pays. Le résultat obtenu fut exactement l'inverse. Comme très souvent en situation de domination, le dominant a été aveugle aux caractéristiques non matérielles de la lutte. L'histoire de l'Iran, les sacrifices passés pour accéder à une réelle souveraineté, la conscience d'une communauté de destin avec le peuple palestinien, tous ces facteurs ont conduit à une réaction collective à l'agression militaire en termes de renforcement de la cohésion populaire, de hausse de la détermination à se défendre et d'affirmation de dignité. Le troisième facteur est également apparu très rapidement. Dès les premières ripostes iraniennes, le constat que l'Iran s'était préparé depuis longtemps à une telle guerre était indéniable. Il fut fait dès les premiers tirs de missiles par de nombreux observateurs militaires, repérant l'existence d'une véritable stratégie de riposte iranienne. L'utilisation dans les premiers jours de stocks de missiles et de drones anciens pour épuiser le dôme de fer avant de passer à d'autres plus sophistiqués était patente. Par ailleurs, l'atterrissage en quelques jours à Téhéran de 3 avions cargo Boeing 747 chinois venait rappeler que l'Iran était loin d'être isolé. Le type d'appareil utilisé ne pouvait qu'inquiéter Tel Aviv et Washington. Ces énormes cargos sont en effet ceux qui sont classiquement utilisés pour le transport du matériel militaire. Ces livraisons, dont le contenu était tenu secret, venaient rappeler à tous les belligérants que la Chine et l'Iran sont engagés dans un partenariat stratégique depuis de nombreuses années. Il en est de même avec la Russie, qui a affirmé un soutien sans faille à Téhéran, comme en témoigne la visite du ministère des Affaires étrangères iranien à Moscou et la déclaration d'alliance stratégique qui l'a accompagnée. Il en est enfin de même avec la déclaration commune des membres des BRICS qui réaffirment leur soutien à l'Iran et condamnent l'agression états-unienne, même si certains des membres comme l'Inde ont individuellement des positions plus euphémisées. Nous reviendrons dans notre prochaine chronique sur les conséquences de l'intervention états-unienne. Sur le plan des causes, il est d'ores et déjà possible d'affirmer que l'accélération brusque de la décision de Donald Trump de passer d'une guerre par procuration à une guerre directe n'est pas un coup de tête de celui-ci ou le résultat de l'instabilité chronique du personnage qu'aime à évoquer de nombreux analystes. Il semble au contraire être une tentative de sauver une intervention israélienne qui se dirigeait rapidement vers un fiasco total. Il s'agissait en quelque sorte de sauver le soldat Netanyahou pour éviter ce fiasco. Le résultat en est un fiasco états-unien.
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Notre chronique est, comme prévu, consacrée à l'évolution de la situation en Iran et aux conséquences de l'agression israélo-états-unienne contre ce pays. Les réactions à l'agression militaire états-unienne contre l'Iran ont bien entendu été immédiates et nombreuses. Elles révèlent que le monde a changé. Il n'est plus le même que celui d'après la chute de l'URSS, ni même celui après la chute du régime syrien. Cette dernière chute a convaincu de nombreux États que l'hégémonisme états-unien était prêt à tout pour se maintenir et que la voie des concessions à cet hégémonisme conduisait à la balkanisation et au chaos. Au-delà de la diversité des expressions utilisées, ces réactions à l'agression états-unienne constituent un véritable révélateur de l'état de notre monde et des rapports de force qui le caractérisent. Ces réactions mettent en effet en exergue la contradiction principale qui départage les acteurs nationaux aujourd'hui, à savoir l'opposition entre un hégémonisme et ses alliés d'une part et une multipolarité en développement d'autre part. Ces réactions peuvent en effet se classer en trois grandes catégories. La première est celle des alliés inconditionnels de Washington, approuvant l'agression états-unienne et reprenant l'ensemble de ces éléments de propagande de guerre. Sans surprise, on retrouve dans cette catégorie les principales puissances occidentales alliées des États-Unis. Nous disons sans surprise car ces mêmes pays étaient ceux qui, au cours de la réunion du G7 du 17 juin dernier, validaient l'ensemble des positions israéliennes de justification de leur agression contre l'Iran, enclenchée quelques jours plus tôt. Le communiqué du G7, qui, rappelons-le, réunit les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Union européenne, expliquait ainsi, je cite, « Nous, chefs d'État et de gouvernement du G7, réaffirmons notre attachement à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient. Dans ce contexte, nous affirmons qu'Israël a le droit de se défendre et nous réitérons notre soutien à la sécurité d'Israël. Nous affirmons également l'importance de la protection des civils. L'Iran représente la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. Nous avons toujours affirmé clairement que l'Iran ne pourra jamais détenir l'arme nucléaire. Nous demandons instamment que le règlement de la crise iranienne permette une désescalade générale au Moyen-Orient, notamment un cessez-le-feu à Gaza. » Fin de citation. Chaque phrase de cette citation serait à commenter. Alors que c'est Israël qui agresse l'Iran, c'est le droit d'Israël à se défendre qui est clamé. Alors que le génocide continue à Gaza, c'est l'Iran qui est présenté comme la principale source d'instabilité et de terrorisme. Alors que seul Israël possède l'arme nucléaire dans la région, c'est l'Iran qui est décrit comme menace nucléaire. Avec une telle approche, ces mêmes États ne pouvaient qu'approuver l'entrée en guerre des États-Unis, même s'ils accompagnent celle-ci d'un appel à la désescalade. Une déclaration commune de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, datée du 22 juin, annonce donc logiquement leur soutien à Washington. Je cite « Nous affirmons notre soutien à la sécurité d'Israël. Nous avons toujours été clairs sur le fait que l'Iran ne pourra jamais disposer d'une arme nucléaire et ne pourra plus constituer une menace pour la sécurité régionale. Nous demandons instamment à l'Iran de ne pas entreprendre d'autres actions susceptibles de déstabiliser la région. » Fin de citation. La seconde catégorie de réaction a été la condamnation ferme de l'intervention militaire états-unienne, de Moscou à Pékin, en passant par Alger, Islamabad, Rio de Janeiro ou Caracas. C'est la violation de la souveraineté nationale iranienne qui constitue le cœur des déclarations officielles. L'atterrissage de 3 avions cargo chinois à Téhéran est venu souligner que l'Iran pouvait être alimenté durablement en armement. La déclaration du gouvernement chinois expliquant que Trump avait perdu toute crédibilité internationale par cette violation du droit international sonne comme la justification politique de cette aide à l'Iran. La rencontre en plein conflit entre Poutine et le ministre des Affaires étrangères iranien est venue réaffirmer la solidité de l'alliance stratégique avec la Russie. La déclaration des BRICS de soutien à l'Iran, en dépit de l'ambiguïté de certains de ses membres, démontre que ceux-ci ont compris que leur propre souveraineté dépend de la réussite ou non du plan états-unio-sioniste de déstabilisation de l'Iran. La troisième catégorie regroupe de nombreux pays qui centrent leur position sur un appel à la désescalade et sur le danger d'une extension régionale, voire mondiale, du conflit. Et d'autres pays qui ont adopté une position de silence prudente comme la plupart des pays africains. L'image mondiale qui se révèle est bien celle d'une contradiction centrale entre l'hégémonisme occidental et une tendance contre-hégémonique multipolaire, avec un troisième pôle à la fois impliqué économiquement avec la tendance multipolaire, mais adoptant une posture de prudence politique dans la prise de position sur la guerre, par crainte des répercussions et rétorsions états-uniennes. Les frappes états-uniennes ont bien entendu provoqué des dégâts sur les infrastructures nucléaires iraniennes. L'ampleur de ceci reste cependant difficilement évaluable au regard des informations disponibles. Ce qui est en revanche avéré, c'est le caractère de fanfaronnade des déclarations officielles états-uniennes annonçant la destruction complète de ces infrastructures. Immédiatement, après celle-ci, l'Organisation de l'énergie atomique iranienne annonçait que les frappes états-uniennes ne pouvaient pas arrêter le programme nucléaire iranien et que le stock d'uranium enrichi avait été mis en sécurité avant l'attaque états-unienne. Dès le lendemain, le New York Times analyse les images satellites disponibles et conclut à l'existence de dégâts importants, mais ne permettant pas de stopper l'activité des sites. Évoquant le principal site, celui de Fordo, l'article de ce journal explique, en citant des militaires israéliens, je cite, « Le site n'a pas été entièrement détruit, mais seulement gravement endommagé ». Fin de citation. Enfin, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, dément les affirmations de Trump le même jour. Je cite, « Les infrastructures critiques du cycle de combustible nucléaire semblent n'avoir pas été affectées ou n'avoir subi que des dommages mineurs. L'enrichissement de matière nucléaire, et nous pouvons désormais le dire sans détour, la future production d'armes nucléaires va se poursuivre. » Fin de citation. La dernière phrase de Medvedev n'est pas une erreur ou un lapsus, mais une conclusion logique. Par leur agression, les États-Unis ont sans doute définitivement convaincu les Iraniens de se doter de l'arme nucléaire pour disposer d'une arme de dissuasion dans un monde où un membre du Conseil de sécurité s'autorise ouvertement à violer le droit international. Medvedev poursuit son raisonnement en indiquant, je cite, « Plusieurs pays sont prêts à fournir directement à l'Iran leur propre ogive nucléaire. » Fin de citation. Le Pakistan l'avait déjà annoncé publiquement, mais Medvedev souligne qu'il n'est pas le seul. Autrement dit, le seul résultat obtenu après 10 jours de bombardement israélien est l'entrée en guerre directe des États-Unis et l'exact inverse du but de guerre affiché tant par Tel Aviv qu'à Washington. Enfermé dans son objectif de contrôler totalement cette région stratégique, sans doute la plus importante en termes de distribution de puissance mondiale, Donald Trump a tout simplement sous-estimé que le monde actuel n'est plus celui des lendemains de la chute de l'URSS, que l'Iran n'est pas la Syrie, que les peuples résistent toujours à l'agression, que le double standard après 20 mois de génocide à Gaza et en Cisjordanie est désormais intolérable pour de nombreux États, etc. Ce faisant, il a conduit le monde à un véritable danger de conflagration mondiale que le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a clairement évoqué dans son entretien avec le journaliste Pavel Zaroubtine. Je cite, « La troisième guerre mondiale pourrait être imminente ». Fin de citation. Comme nous l'avons souligné dans notre précédente chronique, les réactions internationales à l'agression états-unienne, les soutiens stratégiques reçus par l'Iran, de la Chine, de la Russie, des BRICS, l'avertissement de plusieurs pays plus ou moins explicite qu'ils étaient prêts à mettre à disposition de l'Iran des armes nucléaires, les frappes iraniennes contre les bases états-uniennes en Irak et au Qatar, tous ces facteurs expliquent le fiasco sioniste et états-unien que constitue le cessez-le-feu de cette nuit. Cependant, jamais un dominant ne renonce à sa domination sans y être contraint par le rapport des forces. Washington peut dans ce contexte être tenté par la fuite en avant guerrière en demandant à sa propagande de guerre de préparer un prétexte à une intervention directe états-unienne de grande ampleur, en arguant par exemple d'une pseudo-violation du cessez-le-feu par l'Iran. Comme le soulignait déjà Karl Marx, je cite, « Le capital a horreur de l'absence de profit. Quand il flaire un bénéfice raisonnable, le capital devient hardi. À 20%, il devient enthousiaste. À 50%, il est téméraire. À 100%, il foule aux pieds toutes les lois humaines. Et à 300%, il ne recule devant aucun crime. » Fin de citation. La vigilance et la mobilisation sont donc plus que jamais de mise. Comme le rappelle un proverbe populaire existant dans de nombreuses cultures, le pire n'est pas toujours certain. De notre mobilisation collective dépend l'arrêt ou non de cette marche macabre à la guerre pour les profits. Refuser d'être complice de cette logique de guerre, c'est d'une part continuer d'amplifier la mobilisation contre le génocide à Gaza, dont l'occultation était un des objectifs réels de l'agression israélienne contre l'Iran, et d'autre part de la compléter par la construction d'un vaste mouvement populaire contre la guerre.
خداوند دادنم
Radio Campus.
Quand on discute des politiques, alors tu sais, je m'énerve. Hein.
106,6.
Bienvenue dans Tout Bascule, le podcast où nous parlons des grands choix de notre époque. Aujourd'hui, nous plongeons dans le sommet de l'OTAN qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas. Si ça ne dépendait que des chefs de l'OTAN, ce sommet remettrait en question notre sécurité sociale pour une course aux armements sans précédent. Nous allons parler de l'OTAN, de la folie de la norme de 5% et surtout de qui va payer la facture au final. Ensuite, j'aurai un invité très spécial pour ce numéro de Tout Bascule, à savoir Maître Luc Wallen, avocat à la Cour pénale internationale de La Haye. Avec Maître Wallen, je parlerai du mandat d'arrêt de la Cour pénale contre Netanyahou, des déclarations de De Wever à ce sujet et de l'attaque de Donald Trump contre la Cour pénale internationale.
Le monde bascule. Tout change rapidement et ça peut partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une nouvelle société par et pour les gens et qui ne soit pas guidée par la soif de profit. Je suis Peter Mertens. Bienvenue dans Tout Bascule.
Quelle sera la position de la Belgique au sommet de l'OTAN la semaine prochaine? Les pays de l'OTAN doivent discuter du budget qu'ils consacrent à leur défense. L'objectif est d'investir 5% du produit intérieur brut. Notre pays atteint péniblement 2% cette année, ce qui pèse déjà très lourd sur le budget de l'État.
Le sommet de l'OTAN, ce n'est pas juste une petite réunion diplomatique, non. Des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de 32 États membres se réunissent pour décider de milliards d'euros de dépenses de défense. Mais c'est quoi l'OTAN exactement? L'OTAN, c'est l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance militaire fondée en 1949 avec 12 pays, dont la Belgique, les Pays-Bas, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. L'OTAN a été créée pendant la guerre froide comme un instrument militaire contre l'Union soviétique. L'Union soviétique n'existe plus depuis longtemps et pourtant, l'OTAN a continué d'exister en tant qu'alliance militaire. Elle s'est même élargie Aujourd'hui, elle compte 32 États membres. L'OTAN organise régulièrement un sommet avec les dirigeants gouvernementaux et les ministres de ces États membres. Entre ce 24 et ce 26 juin, ils se réunissent à La Haye, aux Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais démissionnaire a débloqué 95 millions d'euros pour organiser le sommet. Et la police néerlandaise parle de la plus grande opération de sécurité de son histoire et demande qu'aucun autre événement n'ait lieu ailleurs dans le pays pendant le sommet. C'est clair, le sommet de l'OTAN n'est pas juste un rituel diplomatique de quelques ministres de la Défense, non. Des décisions sont prises sur des milliards d'euros, sur la direction que l'Europe doit prendre et surtout sur qui va payer la facture.
Pendant le sommet de La Haye, je m'attends à ce que les dirigeants des pays alliés acceptent de dépenser 5% de leur PIB pour la défense. Ce sera un engagement de l'OTAN dans son ensemble et un moment décisif pour l'Alliance.
Mark Rutte, le chef de l'OTAN, dit donc qu'il s'attend à ce que les 32 États membres de l'OTAN acceptent désormais de dépenser 5% de leur richesse nationale pour la défense. Une obligation, c'est ainsi qu'il l'appelle. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas une obligation. J'en parlerai plus tard, mais il s'agit donc de milliards d'euros. L'OTAN veut que chaque pays dépense désormais 5% de son PIB en défense.
Ce nouveau plan de dépenses pour la défense comporte deux volets. 3,5% seront investis dans nos besoins militaires essentiels. Le reste servira à financer des investissements liés à la défense et à la sécurité, y compris les infrastructures et le renforcement des capacités industrielles.
Ils vont donc diviser ces 5% en deux parties. Une partie pour les dépenses militaires dures et une pour les infrastructures militaires et la cybersécurité. Les opinions divergent sur comment ça se fera. La Belgique, l'Espagne et le Royaume-Uni veulent diviser les 5% en 3% pour les dépenses militaires dures et 2% pour les infrastructures militaires. Mais la France, l'Italie et les Pays-Bas veulent diviser les 5% en 3,5% pour les armes et 1,5% pour les infrastructures. Il y aura sans doute aussi des discussions interminables autour des échéances pour réaliser ces objectifs. Mais quoi qu'il en soit, on parle ici de sommes colossales pour acheter plus de chars, plus d'avions, plus de munitions, plus d'infrastructures destinées à faire la guerre. Et ça, ça va avoir un impact énorme sur nos pensions, notre système de santé, notre sécurité sociale. J'en parlerai tout à l'heure. Mais d'abord, la question suivante. D'où vient ce chiffre de 5%? Eh bien, la réponse est simple. Ce chiffre vient de Donald Trump. On peut se poser la question, pourquoi Donald Trump veut ça? Bien sûr, parce que tout cet argent sera principalement dépensé pour acheter des armes et du matériel aux États-Unis, mais ce n'est pas la seule raison. Trump veut que les Européens dépensent 5% pour le militaire parce qu'il veut que les États-Unis puissent se concentrer sur la Chine. Selon Trump, c'est le véritable ennemi des États-Unis. Toute l'opération pour faire payer 5% aux États européens sert donc un grand objectif. Que les États-Unis puissent se concentrer sur leur ennemi principal, la Chine. C'est dit ouvertement. Écoutez Pete Hegseth, c'est le ministre des Affaires étrangères de Trump.
Nous croyons toujours que le A dans OTAN signifie Atlantique Nord et que nos alliés européens devraient maximiser leur avantage stratégique sur le continent. Et grâce au président Trump, ils relèvent le défi. Et si nos alliés partagent le fardeau, nous pouvons augmenter notre attention sur l'Indo-Pacifique, qui est notre théâtre d'opération prioritaire.
Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Les Européens doivent payer plus pour que les États-Unis puissent se concentrer sur leur théâtre d'opération prioritaire, l'Indo-Pacifique. Cela signifie l'encerclement militaire de la Chine. Les États-Unis ont déjà des bases militaires au Japon, en Corée du Sud et aux Philippines. Ils patrouillent en mer de Chine méridionale. Ils ont des traités de coopération militaire avec l'Australie et l'Inde, et ainsi de suite. Et ils veulent augmenter la pression sur la Chine. Revenons au chef de l'OTAN, Mark Rutte. Il a parlé le 9 juin dernier devant un public sélectionné au Chatham House à Londres.
Et donc cette prise de conscience profonde que notre sécurité, celle de l'Europe, du Canada et des États-Unis, est concrètement interconnectée, ne repose pas seulement sur des raisons historiques, mais sur des réalités très concrètes. Et cette idée est profondément ancrée dans la mentalité américaine.
L'interconnexion est profondément ancrée, dit Rutte. Et oui, et la menace de Trump de s'emparer du Groenland, c'était pour rigoler peut-être? Et le vice-président J.D. Vance qui a humilié les Européens, c'était du théâtre? Les petites larmes des diplomates européens, elles n'étaient pas vraies? Et les guerres tarifaires de Trump contre l'Europe, pas 20%, pas 30%, pas 40%, mais bien 50% sur l'acier et l'aluminium, c'est ça la profonde interconnexion? Allô, monsieur Rutte?
Et en même temps, ils ont d'autres choses à gérer, comme dans le Pacifique, au Moyen-Orient, et parfois aussi en Afrique, ce qui est tout à fait logique.
Tout à fait logique, dit Rutte. Tout à fait logique. Mais logique pour quoi? Et logique pour qui? Pourquoi ce serait logique que Trump s'immisce dans les affaires africaines? Pourquoi ce serait logique que Trump s'immisce dans la sale guerre au Congo, si ce n'est pour piller encore plus de minerais? Pourquoi on devrait trouver logique que Washington s'occupe de la production de nickel en Indonésie? Pourquoi ce serait logique que Trump veuille déterminer la politique de sécurité de l'Australie?
Nous dépensons donc plus pour qu'il puisse se tourner davantage vers, par exemple, l'Indo-Pacifique, au fil du temps, étape par étape.
Par exemple, vers l'Indo-Pacifique. C'est ce que dit Rutte. Nous devons dépenser des milliards de plus pour que les États-Unis puissent se tourner vers, par exemple, l'Indo-Pacifique. Non, monsieur Rutte, pas par exemple. Ce n'est pas un simple exemple. Au contraire, tout tourne autour de ça. Les Européens doivent dépenser des milliards en plus pour que les États-Unis puissent se concentrer sur leur propre agenda géopolitique, c'est-à-dire concentrer leurs forces contre la Chine dans l'Indo-Pacifique. L'OTAN est un instrument de la politique de domination américaine et c'est nous qui devons en payer le prix. Ce n'est pas tout. Ça va encore plus loin. Trump vient à peine de convaincre les Européens de cette norme folle de 5%. Et que font ensuite les États-Unis? Eh bien, ils vont dire partout dans le monde, « Regardez, les Européens dépensent 5% en armes. Maintenant, vous devez faire la même chose. » Écoutez un peu Elbridge Colby. Ça, c'est le vice-ministre de la Défense des États-Unis.
Un engagement très ferme de l'OTAN à atteindre l'objectif de 5% de dépenses militaires fixé par le président américain, c'est la nouvelle norme pour nos alliés à travers le monde, en particulier en Asie.
Vous entendez ça? Le chiffre vient de POTUS, c'est-à-dire le président des États-Unis. C'est Trump. Et il ne s'applique pas qu'aux pays de l'OTAN, non. Ça devrait devenir la nouvelle norme pour tout le monde. Écoutez la suite. C'est encore mieux.
C'est difficile à croire que je dise ça. Mais les alliés asiatiques devraient prendre exemple sur les pays européens. Les membres de l'OTAN s'engagent à consacrer 5% de leur PIB à la défense. Même l'Allemagne. Ça n'aurait aucun sens que des pays européens fassent cet effort pendant que des alliés clés en Asie dépensent encore moins, alors qu'ils font face à une menace encore plus redoutable, sans même parler de la Corée du Nord.
Hallucinant. Hallucinant. L'Europe est le nouvel exemple. Regardez l'Europe. Ils sont assez fous pour dépenser 5% de toute leur richesse pour le militaire. C'est là notre avenir. Maintenant, vous tous en Asie devez aussi dépenser 5% en armement. Les Philippines, les Australiens, les Néo-Zélandais, tout le monde doit maintenant dépenser 5% en armement. Trump utilise les Européens et les ministres et chefs d'État européens Benewiwi pour augmenter l'armement aussi en Asie. Et tout ce beau monde, il va acheter où ses armes? Eh oui, vous l'avez deviné, principalement à l'industrie américaine de l'armement. Profit, profit et encore profit. Hallucinant. On est en train de se faire rouler dans la farine. Et tout ça se passe sous nos yeux. On joue l'Europe contre l'Asie et l'Asie contre l'Europe. Et attention, Colby, donc le vice-ministre de la Défense des États-Unis, dit tout ça le 31 mai. C'est-à-dire un mois avant le sommet de l'OTAN à La Haye. C'est-à-dire un mois avant que la norme de 5% ne soit officiellement approuvée. Comment c'est possible? Toute cette logique de guerre froide contre la Chine ne nous apportera rien de bon. Au contraire, le coup de la norme Trump est gigantesque. Et là, on assiste à un pur moment de surréalisme à la Belge. Trump, président de parti présent au gouvernement belge, déclare dans tous les journaux et à tous les JT qui sont contre la norme de 5% imposée par Trump. Écoutez un peu ça. 5% pour la défense, c'est simplement de l'hystérie collective, dit Georges-Louis Boucher, le président du MR. La norme de 5% est complètement folle, dit Bart De Wever, qui est toujours le vrai patron de la NVA. La norme de l'OTAN de 5% est ridicule, dit Conde Rousseau, le président Evreut, le parti socialiste au nord du pays. Voilà, ils sont tous fermement contre. On pourrait alors penser, c'est pas un débat difficile. Les ministres belges vont à La Haye avec un mandat clair. Pas un centime de plus pour l'armement. Encore plus d'argent pour les armes, c'est fou, c'est de l'hystérie collective et c'est ridicule. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Nous donnons donc à De Wever, le premier ministre, à Franke, le ministre de la Défense, et à Prévost, le ministre des Affaires étrangères, un mandat pour plaider à La Haye contre toute nouvelle augmentation. Ce serait en plus super logique, vu l'état de notre pays. Parce que hier, la Belgique dépensait 1,3% de son PIB pour la défense. C'était hier. Et avec l'accord de Pâques que le gouvernement a passé en mars dernier, le premier ministre De Wever a porté ça à 2%. Déjà une augmentation très sérieuse qui fixe le budget de la défense à 12,8 milliards d'euros par an. Eh bien, cette augmentation, notre gouvernement ne parvient pas à la financer. Je répète, il ne parvient déjà pas à la financer. Écoutez, notre ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost.
Nous devrons travailler avec flexibilité pour être sûr que ce ne soit pas trop compliqué.
Te moeilijk zal zijn omdat alleen
de maar nu spreekt extra... maar over 2032 wat 7 jaar.
Ja, zelfs de.
Nous ne savons même pas encore comment nous allons financer les 4 milliards supplémentaires pour cette année afin d'atteindre les 2%.
We weten nog niet hoe we dat wij zullen financieren. Dus we moeten.
Devons donc rester attentifs et prudents.
Voilà. Le gouvernement n'arrive pas à financer le passage à 2%. Ils ont utilisé tous les tours de passe-passe, mais ils n'ont aucune idée de comment ils vont le faire. Ils ont donc du mal à atteindre 2%, mais ils parlent déjà de 3 ou 3,5%. Ça représente donc 10 milliards d'euros de plus qu'aujourd'hui. Ils ne sont même pas capables de finaliser un accord pour une taxe sur les plus-values qui rapporterait à peine un demi-milliard d'euros. Je répète, à peine un demi-milliard. C'est encore le chaos complet dans le gouvernement pour se mettre d'accord sur cette petite taxe. Mais dépenser 20 fois plus, soit 10 milliards d'euros supplémentaires par an, ça ne poserait aucun problème. On aurait donc besoin de 20 taxes sur les plus-values pour payer ces dépenses militaires supplémentaires. Eh bien, je peux mettre ma main au feu, il n'y aura pas de taxes supplémentaires sur les plus-values. On ne fera pas payer les riches pour cette folie militaire. On cherchera l'argent ailleurs, et cet ailleurs, ce sera dans la sécurité sociale. Si notre gouvernement décide que nous devons aller à 3 ou 3,5% pour la défense, nous devrons dépenser chaque année 20 à 24 milliards d'euros en défense. Et je ne parle que de la défense dure, je ne parle pas ici de la norme Trump de 5%. 3%. C'est 20 milliards d'euros par an, soit deux fois plus que ce que nous dépensons annuellement pour les allocations familiales. 3,5%, c'est 24 milliards par an, soit huit fois plus ce que nous dépensons par an dans la justice. La même justice qui manque déjà de moyens, qui est à bout de force et où il pleut dans les tribunaux. Derrière le débat sur la norme de l'OTAN se joue un autre débat fondamental. Celui sur l'avenir de notre sécurité sociale. C'est fondamental. Ça va déterminer ce qui va arriver aux pensions, aux allocations familiales, à la protection sociale. Un débat fondamental sur des milliards d'euros par an. Et pourtant, Silence radio sur cette question.
Débat intéressant. Vous sentez dans le silence de l'hémicycle que l'opposition touche quelque chose d'essentiel. Un impact si important sur le budget, une décision gigantesque sur les budgets de défense. Et y a-t-il un véritable débat de fond ? La vérité est bien sûr que cela ne se décide pas à la Chambre. Pas même dans le gouvernement Arizona, mais au niveau de l'OTAN elle-même. Et là, vous devez montrer de la solidarité. Et de tout ce que nous entendons, il est clair qu'il y a un large consensus autour des 5%. Je suis curieux de savoir ce que le Premier ministre répondra.
C'est intéressant. Que dit ce journaliste politique sur la télévision publique du nord du pays ? 1. Il y a en fait très peu de débats sur la décision la plus importante des 10 prochaines années. À part le PTB, presque personne n'ouvre sa bouche. 2. Nous ne décidons pas ça nous-mêmes à la Chambre. Nous ne décidons même pas ça dans le gouvernement Arizona. Ça se décide ailleurs, à savoir au quartier général de l'OTAN. Et 3, il y a un consensus sur cette norme de 5%. Ce sont 3 choses que dit ce journaliste. Eh bien, rien de tout ça n'est correct. L'OTAN a été fondée en 1949. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard, lors du sommet de Riga en 2006, qu'on parle d'une soi-disant norme OTAN. Et c'est au sommet du Pays de Galles, en 2014, qu'on précise que cette norme serait idéalement de 2%. Premièrement, cette norme est fondamentalement arbitraire. Il n'y a aucune raison rationnelle, militaire ou stratégique pour que les dépenses de défense d'un pays doivent être dans une proportion fixe par rapport au PIB. Parce que le PIB ne dit rien des besoins réels de sécurité d'un pays. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas parlé d'une telle norme pendant 50 ans. Deuxièmement, il n'existe aucun engagement juridiquement contraignant pour une telle norme. Aucun. La soi-disant norme de l'OTAN n'a aucun statut légal ni fondement dans un traité. On ne peut pas l'imposer juridiquement. La norme est un accord politique, pas une obligation juridique. Finalement, et c'est le point crucial de toute l'affaire, les mêmes politiciens qui crient aujourd'hui le plus fort qu'ils sont contre la norme de Trump de 5% ne font rien pour arrêter cette norme. Boucher, De Wever, Rousseau, vous savez, ceux pour qui la norme de 5% est de l'hystérie collective, de la folie ou ridicule, ils suivent aujourd'hui une autre stratégie. Ils font autre chose. Ils disent, ah, on ne peut pas faire autrement. Il faut, on ne préférer ne pas le faire. Mais il faut. Ce n'est pas nous qui faisons les règles. Dommage, mais bon, on n'a pas le choix. C'est ça ce qu'ils disent. Et tout ça, c'est de l'enfumage. Parce qu'il y a bel et bien un choix. La norme de l'OTAN n'est pas un accord juridiquement contraignant. Les États membres de l'OTAN restent souverains sur leur politique de sécurité et de défense. Souverains, vous savez, ça veut dire qu'ils peuvent décider eux-mêmes, même s'ils sont membres de l'Alliance. Le Danemark, la Norvège, l'Espagne ont rejeté le déploiement d'armes nucléaires sur leur territoire malgré la pression de l'OTAN. La France, l'Allemagne et la Belgique se sont activement opposés à l'implication de l'OTAN dans la deuxième guerre du Golfe malgré la forte pression des États-Unis et du Royaume-Uni. La Turquie, qui pour rappel est aussi membre de l'OTAN, a refusé l'entrée de troupes terrestres américaines sur son territoire. Voilà. Même au sein de l'OTAN, les États membres peuvent tracer leur propre voie, s'ils le veulent. C'est d'ailleurs dit explicitement dans le fameux rapport Hermel de 1967, adopté par l'OTAN. Et ce rapport stipule à l'article 7...
En tant qu'État souverain, les alliés ne sont pas obligés de subordonner leur politique aux décisions prises collectivement.
Voilà, super clair, il n'y a pas de normes obligatoires. Pas de « on n'a pas le choix », pas de « il faut le faire », rien de tout ça. Les pays peuvent choisir eux-mêmes ce qu'ils font. Ils sont autonomes dans ce qu'ils décident, même s'ils sont membres de l'OTAN. Si Rousseau, Boucher et De Wever pensaient vraiment que la norme de 5% de Trump est folle, que l'hystérie collective est ridicule, alors ils ont le droit, même le devoir d'aller défendre ce point de vue à La Haye. Et pas de se mettre à l'avance à plat ventre. Il y a encore un autre aspect dans ce refrain de « on ne peut pas faire autrement » qui est vraiment malhonnête. On fait comme si les pays de l'OTAN étaient de pauvres malheureux qui dépensaient des miettes pour la défense. C'est vraiment l'inverse. Les chiffres aujourd'hui, déjà, sont hallucinants. Vraiment hallucinants. En 2024, les 32 pays de l'OTAN ont dépensé ensemble 1275 milliards de dollars en armement. Si lors du sommet de l'OTAN à La Haye, on décide que c'est 5%, alors les pays de l'OTAN ne dépenseront plus 1275 milliards de dollars en armement, mais bien 2758 milliards de dollars. Donc le double. C'est plus que tous les pays du monde. Donc pas seulement l'OTAN, mais aussi la Chine, la Russie, l'Inde, Israël, le Japon, l'Arabie Saoudite, etc. dépensent aujourd'hui en armement. Je vais répéter ça. Si Trump obtient ce qu'il veut, le 5%, alors les 32 pays de l'OTAN dépenseront bientôt plus en défense que le monde entier ne fait aujourd'hui. Actuellement, les pays de l'OTAN dépensent déjà 12 fois plus que la Russie et 4,5 fois plus que la Chine. C'est la situation aujourd'hui, avant l'augmentation à 5%. Si l'OTAN passait à 5%, on ne dépenserait pas 12 fois plus que la Russie, mais 20 fois plus. On appellera ça de la sécurité, bien sûr, mais ce sera désormais sans sécurité sociale. Officiellement, l'OTAN dit qu'elle veut résoudre les conflits internationaux de manière pacifique. Mais en pratique, c'est une machine qui alimente l'industrie militaire, qui sacrifie la sécurité sociale pour les chars et les missiles et qui entraîne nos pays dans une nouvelle guerre froide contre la Chine.
L'OTAN est l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Elle est même plus puissante que l'Empire romain et plus puissante que l'Empire napoléonien. Nous sommes l'alliance de défense la plus puissante jamais vue dans l'histoire du monde.
C'est ce que dit Mark Rutte, président de l'OTAN. Wow. L'OTAN est l'alliance de défense la plus puissante de l'histoire du monde, comme l'Empire romain et comme l'Empire de Napoléon. Ces exemples de lutte sont vraiment parlants. Parce que l'Empire romain, vous savez, n'était pas du tout une alliance de défense. L'Empire romain était une puissance impériale avec une logique claire de conquête, de soumission et de centralisation. Chaque expansion était destinée à renforcer le centre, c'est-à-dire Rome. Ce n'est pas différent avec l'OTAN aujourd'hui. Et Napoléon, lui non plus, il n'opérait pas en tant que chef d'une coalition défensive. Au contraire, il s'est couronné lui-même empereur d'un empire expansionniste avec des états satellites, des diktats économiques et des campagnes militaires jusqu'à Moscou. Selon Rutte, l'OTAN est plus puissant que l'empire de Napoléon et plus puissante que tout l'empire romain. Mais si tout ça est vrai, avec un OTAN qui dépense déjà 1275 milliards de dollars par an en armement, pourquoi il faudrait dépenser encore plus? Pourquoi on devrait alors dépenser deux fois plus chaque année? Pourquoi on devrait démanteler les systèmes de pension et de sécurité sociale pour atteindre ces 5%? Rutte donne la réponse entre les lignes. C'est parce que l'OTAN n'est pas du tout une alliance de défense, mais bien un instrument de domination mondiale, comme l'Empire romain. L'OTAN est une machine de guerre. On ne lui doit rien. Il n'y a aucune raison pour qu'on doive sacrifier notre sécurité sociale pour leur guerre. Faites entendre votre voix. Le dimanche 22 juin, à la manifestation pour la paix à La Haye, ou le lundi 23 et mardi 24 juin, pour le Forum international pour la paix à Bruxelles, allons-y et faisons entendre notre voix pour la paix.
L'Américain en Amérique et la France en République. L'Américain en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees. Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier. Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier. Plan Marshall et pacte atlantique, la guerre au peuple soviétique. Nous ne marcherons pas, nous ne serons pas vos soldats. L'Américain en Amérique et la France en République. L'Américain en Amérique et la France en République.
Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees. Eisenhower se sent nerveux, il en voit rouge, il en est bleu. Eisenhower se sent nerveux, il en voit rouge, il en est bleu. Unis tout en faisant la ronde, tous les gars de France répondent, nous ne marcherons pas, nous ne serons pas vos soldats. Les Ricains en Amérique et la France en République, les Ricains en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees.
Radio Campus.
Padron, je te dis, ne discute pas avec le communisme, mon Dieu.
106,6.
Mon invité du jour est Maître Luc Wallin, avocat à la Cour pénale internationale. Vous savez, la Cour pénale internationale, c'est celle qui a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou pour crime de guerre. Ce même mandat d'arrêt que le premier ministre belge Bart Wever a dit qu'il ne pourrait peut-être pas appliquer. Et pendant ce temps, le président américain Trump a aussi lancé une attaque contre cette cour pénale et essaye de bloquer ses comptes bancaires. Donc beaucoup de choses à discuter avec Luc Wallin. Bienvenue, Luc.
Merci.
Luc, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Vous étiez président d'Avocats sans frontières et depuis plus de 50 ans, une voix incontournable dans la lutte pour la justice. Et une journaliste radio vous a récemment qualifié dans son émission de avocat des droits humains le plus reconnu de notre pays. Donc Luc, pour commencer, vous êtes avocat à la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi en fait la Cour pénale internationale ?
Bien, c'est une cour pénale. Donc c'est une cour qui poursuit des criminels et qui prononce des peines, qui a été créée en 1998 à Rome, dans la foulée d'une renaissance en quelque sorte de la justice internationale avec la création des tribunaux ad hoc, comme on dit, les tribunaux des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie et Arusha pour le Rwanda. Donc pendant des décennies, il n'y avait rien qui s'était passé pendant la période de guerre froide, mais on a renoué en fait avec ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale à Nuremberg et à Tokyo. Et on a voulu créer un tribunal qui ne réagit pas du tac au tac selon les conflits précis, mais qui est une instance permanente pour juger de tels crimes. Et donc ça a été créé par des États qui étaient volontaires. Il y a maintenant 125 pays qui ont adhéré à ce qu'on appelle le statut de Rome, donc la Convention sur la Cour pénale. Et cette Cour est compétente pour juger des personnes qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes d'agression, commis soit par des ressortissants de ces États, partie, soit sur le territoire de ces États partis.
Et donc c'est aussi comme ça que, par exemple, dans le cas de la guerre et des meurtres d'Israël contre Gaza, cette cour a prononcé ce mandat d'arrêt contre Netanyahou.
Oui, donc Israël n'est pas parti à la cour, mais la Palestine a été reconnue comme État par l'Assemblée générale des Nations Unies et ensuite aussi par l'Assemblée des parties de la Cour pénale, et donc la Palestine a adhéré à son tour à cette convention, ce qui a créé la compétence pour juger des Palestiniens qui commettent des crimes en Israël, par exemple, c'est le cas pour les mandats d'arrêt qui ont été délivrés contre des responsables d'Hamas, mais aussi pour des étrangers israéliens, en l'occurrence, qui commettent des crimes sur le territoire de la Palestine, c'est-à-dire Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est.
Mais donc il y a un mandat d'arrêt pour, contre Netanyahou, et donc je me rappelle que quand ça a été prononcé, le premier ministre belge, Bart Wever, il a
annoncé qu'il pourrait peut-être ne pas appliquer ce mandat d'arrêt. Est-ce que c'est possible qu'un État décide de ne pas appliquer ce genre de mandat d'arrêt?
Je pense que le premier a entre-temps compris que ce n'est pas à lui de décider ça, mais que c'est à la justice de décider, parce qu'en Belgique, il y a un cadre légal. Et donc, la collaboration avec la Cour, comme la collaboration avec d'autres pays européens dans le cadre du mandat européen, ne passe pas par le gouvernement. Il ne faut pas demander une autorisation du gouvernement. C'est le parquet fédéral qui est saisi par le procureur de la Cour. C'est le parquet fédéral qui procède à une arrestation. C'est une chambre du conseil du tribunal qui confirme qu'effectivement les conditions sont réunies pour un transfert à la Haye. Et tout ça peut se faire sans aucune intervention politique, doit se faire sans aucune intervention politique.
Donc en principe, les États ou les gouvernements ne peuvent pas intervenir dans ces processus?
Ça dépend des pays, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas introduit ces règles dans leur propre législation. C'est même un argument que Orban a invoqué pour dire « mais nous, moi je ne suis pas obligé parce que nous avons signé la Convention de Rome, mais pas encore pris de législation interne pour l'exécuter. » Enfin, ils ont eu la décence quand même pour dire « bon, on va arrêter tout à fait notre partenariat avec la Cour. » Mais en Belgique, en France, etc., tout ça, depuis longtemps, a été légalement structuré.
Entre-temps, cette Cour pénale internationale est aussi dans la ligne de mire du président Trump. Qu'est-ce que lui, il a décidé exactement? Parce qu'il a créé des sanctions contre les collaborateurs et collaboratrices de la Cour. Comment c'est possible? Comment ça marche?
Ben, il a d'abord créé un cadre légal. Normalement, ce n'est pas son rôle, mais ce serait le rôle du Congrès. Mais le Congrès a aussi, entre-temps, adopté une proposition de loi qui va dans le même sens et qui doit encore être confirmé par le Sénat, mais il a pris, comme il a l'habitude de faire, avec un décret présidentiel d'urgence, il outrepasse en fait ses compétences. Et donc d'abord, il a créé en janvier déjà un cadre international qui donne la possibilité au gouvernement de prendre des sanctions contre des personnes qui collaborent à des poursuites contre des ressortissants américains ou des nationaux de pays amis. Et puis, il a, en vertu de son propre décret, pris des sanctions précises contre d'abord le procureur de la Cour et dans un deuxième temps aussi contre des juges de la Chambre qui a délivré ses mandats d'arrêt et aussi un juge qui a été dans la Chambre qui avait autorisé simplement une enquête sur des crimes commis en Afghanistan.
Mais si j'ai bien lu dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai, mais il parlait sur des comptes qui sont bloqués pour les collaborateurs et même pour le procureur, que ces comptes seraient bloqués par les États-Unis. Est-ce que c'est vrai?
C'est exact. Donc les comptes du procureur en Grande-Bretagne ont été bloqués. Il y a des interdictions d'entrée, donc des refus de visa, mais même si on a un visa, des interdictions d'entrée sur le territoire des États-Unis contre ces juges et contre le procureur. Les sanctions les plus importantes concernent le gel de biens qu'on a soit sur le territoire des États-Unis, soit auprès d'institutions financières qui sont soumises à la législation américaine. Mais beaucoup d'institutions financières internationales, évidemment, doivent tenir compte des sanctions prononcées par les États-Unis et les respecter.
Mais en soi, c'est quand même énorme. C'est quand même pas quotidien qu'un État comme les États-Unis prend des telles sanctions. Est-ce que tu as jamais... C'est un premier ou...
Ce n'est pas la première fois, mais c'est bien le seul État qui a fait ça jusqu'à présent. C'est aussi l'État le plus puissant, finalement. Mais donc, déjà, au début de l'entrée en vigueur du statut de Rome, il y a eu ce qu'on appelait finalement le Hague Invasion Act. C'était à l'époque de George Bush, où on a voté une loi pour protéger des militaires américains principalement qui feraient l'objet de poursuites ou d'arrestations. On a dit la loi d'invasion à La Haye parce que ça permettait théoriquement d'envoyer des paracommandos aux Pays-Bas pour libérer quelqu'un qui aurait été arrêté par la Cour pénale. Lors de son premier mandat, Trump avait aussi déjà pris des mesures comparables et il a fait voter aussi une loi dans ce sens qui a été supprimée par Biden et qui est réinstaurée maintenant par ce décret.
Mais ces actions d'aujourd'hui contre ce cours pénal international, est-ce qu'il y a une possibilité que ça aussi à voir avec la question de protéger Netanyahu comme partenaire des États-Unis ou il n'y a pas de lien
Oui, le lien est évident. Donc, c'est suite à ces mandats d'arrêt que ces sanctions, notamment les sanctions contre les juges, ont été prises, contre Khan parce qu'il avait demandé ces mandats. Et ces décisions ont été justifiées par président Trump sur cette base. Donc oui, ça peut avoir évidemment un certain intérêt. Ça n'empêche pas que si par exemple Netanyahu se mettait en tête de venir faire des courses à Bruxelles, qu'il puisse être arrêté. Mais ça constitue potentiellement un handicap sérieux pour le fonctionnement de la Cour. Ce serait encore plus le cas si dans un deuxième temps, on prend aussi des... Jusqu'à présent, on n'a pas encore osé faire ça, de geler aussi les comptes de la Cour elle-même. Mais ça vise aussi toutes les personnes et instances américaines qui collaborent avec la Cour, ce qui est un grand problème pour des organisations comme Human Rights Watch, etc., qui sont établies aux États-Unis ou qui ont une section aux États-Unis et qui, potentiellement, pourraient faire l'objet de, non seulement de sanctions comme les étrangers, mais même de poursuites pénales.
Mais si on entend tout ça, Luc, et si on entend aussi... cet autre tribunal, la Cour internationale de justice, qui a exigé qu'Israël prend toutes les mesures possibles pour éviter un génocide à Gaza. Mais maintenant, on est un an et demi plus tard et l'horreur continue. Il y a peut-être un sentiment que le droit international souffle et que le droit international est sous l'attaque et peut-être... mène à sa fin, qu'est-ce que...
Sous l'attaque, certainement. Sous la fin, certainement, non. Le droit international a connu des crises chaque fois que le monde a connu des crises graves. Donc, on a eu, par exemple, aussi, avant la Cour internationale de justice, il y avait une Cour permanente de justice entre les deux guerres qui a sombré quand l'Allemagne l'a quitté et quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Mais ce n'est pas la fin du droit international et même pas de la justice internationale. Pour revenir à la Cour de justice, cette Cour n'a pas été créée par des États, c'est une Cour des Nations Unies, c'est la Cour des Nations Unies en tant qu'institution, mais qui normalement fonctionne surtout comme une sorte de chambre d'arbitrage entre des États qui ont des problèmes qui soumettent à la Cour, ou bien de donner des interprétations à des conventions, internationales. Et c'est ainsi que, par exemple, l'Afrique du Sud et l'Ukraine avant a utilisé la Convention de génocide pour demander à la Cour de prendre des mesures, d'interpréter cette convention et de prendre des mesures en exécution de cette convention, ce qui a été fait. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, c'est un rôle un peu nouveau qu'a assumé la Cour grâce au fait que certains États ont pris les choses en main et ont introduit ces procédures.
C'est aussi symbolique, justement, c'était l'Afrique du Sud qui a commencé ce cas et c'est un peu regret que cette décision était là. Mais de l'autre côté, il y a quelque part aussi le problème, comment alors on va arriver à ce que ces conclusions seraient respectées?
Oui, donc les mesures qui ont été prises dans le cadre de cette convention sur le génocide lie essentiellement les parties. Donc, on n'a pas ordonner des mesures à d'autres États. Par contre, il y a aussi un avis qui a été demandé par les Nations Unies, l'Assemblée générale, sur l'occupation des territoires israéliens, où là, la Cour a souligné que les autres États aussi ont des responsabilités pour faire ce qui est dans leurs moyens pour faire en sorte que ces occupations prennent fin. Donc là, c'est une décision qui devrait influencer la politique des autres États, qui en partie joue dans les discussions politiques en interne, mais qui n'a pas évidemment d'exécution directe, parce que l'instance qui devrait vraiment faire appliquer sa décision, la police en quelque sorte, c'est le Conseil de sécurité, et celle-là est souvent bloquée par des vétos s'il s'agit d'une question qui tient à cœur des États-Unis ou la Russie.
Donc il y a un droit de veto, mais donc comment alors on peut arrêter un État comme Israël à finir avec l'horreur? Est-ce que quelque part aussi il y a l'inspiration à prendre dans l'Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 80 ou...
Oui, on peut s'en inspirer. Donc le fait qu'il y a eu un boycott international contre l'Afrique du Sud a certainement poussé le gouvernement sud-africain à chercher un accord avec la population noire et ses représentants. Il faut dire quand même aussi que le régime d'apartheid n'avait pas le soutien qu'Israël a aujourd'hui. Donc,
des États-Unis.
Avait un soutien aux États-Unis, mais même aux États-Unis, c'était pas, il n'y avait pas d'unanimité pour soutenir le régime d'apartheid. Il y avait quand même aussi la communauté noire des États-Unis. Et en Europe, par exemple, ce régime n'avait que très peu de soutien, oui, auprès de l'extrême droite, etc. Alors qu'Israël, c'est plus difficile d'obtenir une unité des autres États contre Israël. C'est en train de se mettre en place à fur et à mesure, malheureusement, que les crimes commis sont de plus en plus graves et les conséquences de plus en plus importantes. Même récemment, le risque maintenant qu'il y a vraiment un conflit encore beaucoup plus large qui implique d'autres pays. On ne sait pas où ça va aller et quand. Donc, moi, j'ai confiance que ça ne peut pas durer éternellement, mais ça peut encore durer, évidemment, un certain temps.
Mais, Luc, si tu entends tout ça, tu fais maintenant... Tu es là pour te battre pour la justice, mais qu'est-ce que te permet de tenir le coup?
Je pense que c'est passionnant de faire ce genre de choses, de mener ce genre de procès, que ce soit au niveau de la Belgique ou au niveau de la Cour pénale. Ce qui donne beaucoup de satisfaction quand même, c'est qu'on travaille avec des gens qui ont été victimes des pires horreurs et que tu peux aider. Pour qui un tel procès peut réellement changer leur vie, hein, le fait que leur lutte qui dure depuis parfois des dizaines d'années soit couronnée de succès, que la vérité est établie, qu'ils sont reconnus comme victimes, parce que ça aussi, et qu'il y a une justice qui se fait, est importante même après 10, 20 ans, 40 ans. Et donc même au niveau belge, bon, on a quand même eu quelques dossiers où des instructions qui parfois durent 10, 20 ans aboutissent quand même à des procédures en cours d'assises et des succès. Il y a eu le procès Rwanda, il y a eu le procès Guatemala à Louvain, où nous avons obtenu une condamnation des anciens dictateurs de Guatemala pour l'assassinat de prêtres scoutistes belges. Mais au-delà, évidemment, aussi toute une communauté qui était aidée par ces personnes et qui sont toujours aux yeux de cette communauté des héros locaux. Il y a eu des procès aussi, en tout cas des poursuites et des arrestations pour des Belges ou réfugiés qui sont venus ici pour des crimes au Sierra Leone et au Liberia.
La dernière question, je vais te citer d'abord parce que tu as écrit un livre, « Des droits sans frontières ». Et là, tu écris, je cite, « J'ai regardé les auteurs des pires crimes dans les jeux. Je me suis souvent senti impuissant face à la souffrance des victimes. J'ai admiré leur courage et leur persévérance. Je me suis engagé à leur rendre justice. » Notamment sur cette attitude-là, quel message tu veux envoyer aux étudiants qui se lancent aujourd'hui dans des études de droit? Avec quelles attitudes ils pourraient s'engager dans l'avocature?
Mais la mission importante de l'avocature est effectivement de faire respecter les droits des gens, et notamment des gens les plus faibles. Et oui, en Belgique, ce sont les travailleurs, ce sont les réfugiés, ce sont des étrangers. Au niveau international, ce sont notamment les victimes de ces crimes internationaux. Donc, le faisant, on fait en quelque sorte la plus belle chose qu'on peut faire dans ce métier-là. En tout cas, ça m'a toujours intéressé davantage que des affaires fiscales ou des affaires économiques. Et pour des jeunes, mais je pense, je sais qu'il y a aussi des jeunes avocats et des étudiants pour qui, effectivement, une profession qui part dans cette direction est vraiment recherchée et appréciée.
Oui. Ok, Luc, merci. L'avocature comme engagement humain, merci beaucoup pour avoir parlé avec moi sur ça.
C'était un plaisir, merci.
Merci. Voilà, c'était Tout bascule. On a parlé avec Maître Luc Wallen de l'attaque insensée de Donald Trump contre le droit international. On a parlé de l'OTAN comme empire, de comment notre sécurité sociale est utilisée comme monnaie d'échange, et de ce gouvernement qui dit « on est contre » mais qui, dans les faits, courbe les chines. L'OTAN compte sur notre obéissance. Nous, on compte sur notre force collective. Abonnez-vous. Partagez cet épisode et peut-être qu'on se croisera au contre-sommet à La Haye. Cet épisode a été réalisé avec la collaboration de Gil Feerts, Ruben Rambourg et Stéphane Van Parès. Un grand merci également à toute l'équipe de Facto et à Livia Lumia et Benjamin Bestiaud pour la version française.
Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB.
elle